Merci beaucoup aux organisateurs pour votre invitation. Donc je vais vous parler pendant 40 minutes à peu près de plusieurs expériences concernant le case management. En fait, Prepsy est un service qui existe depuis 20 ans maintenant, 10 ans de réseau de santé, 10 ans de services d'accompagnement médico-social hybride. Vous allez le voir tout à l'heure, et d'autres structures et programmes qui se sont associés à Prepsy depuis le démarrage. Vous voyez sur le fond de la diapositive, là, les partenaires, et tout le monde n'est pas là, avec lesquels nous devons et avec lesquels nous avons travaillé, nous continuons à travailler pour organiser les différents programmes que nous avons mis en place. Alors, si vous voulez bien, merci. Donc, je voudrais d'abord clarifier la question de l'intitulé de mon intervention, puisque je crois que c'était santé mentale et case management. Bon, vous savez qu'il y a un flou artistique entre santé mentale et psychiatrie. La psychiatrie n'est pas la santé mentale et la santé mentale n'est pas la psychiatrie. Je suis psychiatre, je ne suis pas santé mentalologue, par exemple, ça n'existe pas. La santé mentale est une perception de santé publique. Donc on doit faire en permanence l'aller-retour entre les usagers qui sont concernés par la psychiatrie, chaque usager est concerné par la médecine et en particulier par la psychiatrie, et l'ensemble de la population qui est concerné par la santé tout court, et en particulier par la santé mentale, s'il vous plaît. Donc, la question d'abord, c'est les particularités de la santé mentale en France, en particulier, même si c'est un problème qui est bien sûr planétaire. En France, c'est d'abord la première cause d'invalidité, c'est un tiers du budget de la consommation de la sécurité sociale, c'est la deuxième cause d'arrêt de travail, c'est 20 à 30% des consultations des médecins généralistes au quotidien, en sachant qu'on parle de tout type de troubles psychiques, donc ça va de l'anxiété la plus légère jusqu'aux pathologies chroniques. Il y a énormément d'inégalités d'accès aux soins, et en particulier d'inégalités de santé entre les groupes sociaux en ce qui concerne la santé mentale. Ces particularités s'aggravent, je ne parle pas de la crise du Covid, elles s'aggravent naturellement en France, du fait en particulier qu'un faible statut social risque d'augmenter les effets des maladies et que les effets des maladies eux-mêmes accroîtront la vulnérabilité et la mauvaise santé mentale. En fait, la question, c'est comment freiner ces inégalités sociales, probablement en aidant plus de manière préventive et prédictive les différents groupes sociaux qui peuvent être intriqués à la fois d'un point de vue médical, mais aussi, par exemple, d'un point de vue social ou d'un point de vue des relations avec la justice ou avec les consommations toxiques, je verrai tout à l'heure, s'il vous plaît. Et en plus, on est face à un public qui est très mal informé, avec des préjugés tenaces. En particulier, il y a beaucoup de stéréotypes négatifs dans la population, dans les médias aussi, vous l'avez remarqué, à l'égard des maladies mentales. Les gens ont peur de la dangerosité ou de l'imprévisibilité des malades. Ils ont peur d'être agressés, ce qui est complètement faux, puisque les malades en particulier sont 14 fois plus vulnérables que la population générale. Il y a aussi cette fausse image de chronicité qui est entretenue depuis des générations, de stigmatisation, on en a parlé, mais aussi d'auto-stigmatisation, la honte d'être malade, bien que heureusement certains concernés prennent la parole et ont le courage de prendre la parole. À l'inverse, il y a énormément de charges sur le patient lui-même et sur sa famille et sur l'entourage, avec aussi des difficultés à accepter le fait d'être malade, le diagnostic, les traitements et leurs effets secondaires ou la qualité de l'hospitalisation, ce qui n'est pas toujours égal sur le territoire. En plus, il y a une faible connaissance des systèmes de santé qui sont un véritable labyrinthe. Je vous mets au défi de trouver en quelques minutes le bon service pour une pathologie somatique. C'est encore plus difficile pour la psychiatrie. Les gens ne sont pas formés, ça ne s'apprend pas à l'école. Ce fameux labyrinthe est très difficile. Ensuite, il y a aussi l'utilisation du déni, je ne suis pas malade, comme stratégie pour faire face aux situations, et aussi le problème de la diminution, voire la rupture des liens sociaux, familiaux, professionnels, conjugaux, qui sont liés aux troubles cognitifs des maladies chroniques qui augmentent la vulnérabilité, en particulier le risque de comorbidité. On va en parler. Alors, on est confronté à des défis qui sont multiples. D'abord, le premier défi, allez-y, merci, c'est comment répondre aux besoins des usagers. Comment répondre à ces besoins complexes? Je mets juste une photo de l'environnement d'un jeune homme que nous suivons, qui est le fils d'un médecin d'ailleurs. Donc, quand on voit la situation, ben, on se dit que les besoins sont multiples, qu'il faut sûrement beaucoup d'intervenants pour répondre aux besoins et qu'il faut en particulier coordonner un parcours de soins et de services qui soit efficace pour avoir une offre de soins somatiques, médicales et psychiatriques de qualité, pour avoir aussi le maintien de l'environnement familial et social, le retour rapide aux études ou à l'emploi, l'amélioration du niveau d'autonomie et aussi l'accès aux droits et au logement. Le problème de ces pathologies qui risquent de se chroniser, c'est que les autres personnes qui sont dans la même gamme d'âge vont avancer dans leur implantation et que le malade, lui, va stagner, entre guillemets. Donc, il faut essayer de le remettre le plus rapidement possible avec les interventions précoces dans le circuit social. Merci. Il y a un autre défi, c'est engager les patients dans des soins coordonnés et efficaces. Alors, je dis patient et usager, c'est exactement la même chose pour moi. Donc, la question, c'est que si vous dites à un patient ou à quelques patients que vous êtes psychiatre, la plupart du temps, c'est qu'ils se sauvent. Donc, il va falloir les attraper. Comment les attraper? Comment leur donner confiance en nous? Eh bien, en tout cas, la feuille de route santé mentale et psychiatrique est parue maintenant, il y a un petit moment, en 2018, hein. Si vous l'avez lu, et sinon je vous encourage à la lire, donne beaucoup d'orientation à ce sujet. C'est un guide majeur pour l'offre de soins et de services pour les patients atteints de troubles psychiques, et en particulier, une fois de plus, on parle de case management de façon officielle dans le document. Suivante, merci. Il y a un autre défi, c'est comment l'appliquer à l'intervention précoce pour les premiers épisodes psychotiques. Là, c'est trop loin pour moi pour que je puisse, puis c'est pas très net, mais peut-être que vous arrivez à lire. L'idée, c'est d'évaluer la situation le plus rapidement possible, de faire le diagnostic le plus rapidement possible, parce que les pathologies, toutes les pathologies somatiques et psychiatriques répondent au même schéma. Détection précoce, enfin prévention, détection précoce, intervention précoce, réduction de la pathologie, réduction des effets secondaires, réduction de la charge. Et puis l'objectif ensuite, c'est de, une fois que le diagnostic est fait avec certitude, de déployer les soins et les services et d'essayer de les évaluer tout au long de la prise en charge en agglomérant progressivement tous les partenaires qui doivent pouvoir intervenir à la fois dans le médical et dans le social. Malheureusement, on a une fausse frontière entre médical et social en France. Elle ne devrait pas exister pour pouvoir régulièrement évaluer la satisfaction des usagers, j'y reviendrai, et continuer à faire cette roue vertueuse de la qualité. Il y a un autre défi aussi, c'est les effets de frontières qui sont très importants, puisque en fait, la plupart de nos clients, usagers, patients, familles, ne savent pas se retrouver dans le dispositif qui est offert, qui est très foisonnant, et donc on ne sait pas si on doit aller vers le sanitaire, vers le social, vers le médico-social, ou vers les trois en même temps, ou vers d'autres réponses qui sont des réponses paramédicales, voire totalement fumeuses, auxquelles les patients vont essayer, chez lesquelles les patients vont essayer de trouver des réponses. D'accord ? Ça dépend aussi de la vision que nous avons, puisque certains d'entre nous considèrent que les maladies psychiques sont un fait social, et d'autres, dont je fais partie, considèrent que ce sont des maladies et pas des faits sociaux, et donc il va falloir traiter les gens avec tout l'arsenal thérapeutique que nous avons, psychothérapique ou pharmacologique. Suivant. On a aussi d'autres problèmes qui sont que toutes ces parties prenantes avec lesquelles nous travaillons ne sont pas formées ensemble au même moment à la faculté, qu'elles ont des dictionnaires, qu'elles ont des syntaxes, des sémantiques qui sont complètement différentes, et donc les parties prenantes habituellement ne sont déjà pas coordonnées par les langages qu'elles utilisent. Donc, il va falloir apprendre à se parler ensemble. Il faut apprendre à parler le docteur, mais le docteur doit aussi apprendre à parler médico-social ou administratif et réciproquement pour trouver des interfaces qui soient utiles au bénéfice de l'usager. Et donc, le case management, c'est aussi une méthode transversale qui permet de que tout le monde parle le même langage, que ce soit l'usager ou les intervenants. Merci. Alors, l'autre défi, c'est la coordination, parce que, je vais me mettre là, je ne suis pas en face, la coordination est une composante qui est essentielle du case management. Il n'y a pas de case management sans coordination des acteurs, au même titre qu'il n'y a pas d'orchestre, sans chef d'orchestre, en tout cas quand on est très nombreux. C'est un processus organisationnel, social et matériel de pilotage des interactions, d'activités, dans le but d'atteindre un résultat qu'un ensemble d'acteurs ou de dispositifs qui agiraient séparément ne pourraient pas obtenir. C'est un défi du fait de la faible culture commune des partenaires, ça nous y sommes habitués. La suivante. Alors, la complexité, on pourrait mieux la maîtriser avec 4 piliers pour contourner ce fameux labyrinthe. C'est l'intégration des services, je vais y revenir. Alors, attention, quand on parle d'intégration des services, on parle des services offerts ou l'intégration des métiers, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut que dans les dispositifs, nous ayons le maximum de métiers pour éviter ce qu'on appelle les coûts de transaction, c'est-à-dire le temps perdu à se téléphoner ou à faire passer des informations qui vont nécessairement s'altérer au fur et à mesure de la transmission d'informations. Donc c'est mieux d'avoir une équipe où tous les professionnels sont ensemble. Il faut coordonner à la fois les professionnels entre eux dans l'équipe, mais avec les partenaires. Il faut bien sûr encourager les usagers à prendre leur autodétermination, empowerment. Et bien sûr, il faut le fameux case management que je vais vous développer tout de suite. Donc, comment faire pour implanter le case management dont mon collègue a parlé tout à l'heure, la suivante. Merci. D'abord, il faut s'appuyer sur des standards de bonne pratique. On ne peut pas faire de case management si on n'a pas de référentiel, si on n'a pas sur son bureau, si on n'a pas lu le référentiel qui correspond à la pathologie ou aux pathologies pour lesquelles on va agir. Le case management optimise les parcours de soins et de services dans le contexte des évolutions, défis et contraintes du secteur soins, santé et social, mais c'est valable aussi pour d'autres secteurs. C'est valable pour addicto, c'est valable pour maladies chroniques, insuffisance rénale sous dialyse, asthme grave, diabète insulino-dépendant, patient sous main de justice, double diagnostic avec addiction, précarité aussi par exemple. Ça repose sur des critères d'éligibilité qui sont liés au niveau de vulnérabilité médico-sociale des usagers. C'est là où on parle de cas complexes. Le case management, comme c'est un système qui est assez difficile à mettre en place, qui est coûteux, qui nécessite des formations particulières, il doit être réservé à des cas compliqués. On ne peut pas se permettre de dépenser et de mettre en place des dispositifs complexes pour des cas simples. Il n'y a pas de case management de la grippe, et il n'y a pas de case management pour la gastro-entérite annuelle. Il faut aussi voir qu'il y a un but ultime. Ce but ultime, c'est de favoriser la continuité des soins pour rendre les différents opérateurs du système accessibles tout en renforçant leurs responsabilités communes et leurs actions afin de favoriser un rétablissement qui est perçu par l'usager comme un processus de changement unique et profondément personnel. La facilitation d'accès aux soins et services, la planification du plan de soins et de services individualisé et l'amélioration de la circulation dans le parcours de santé entre ces différents opérateurs assure une continuité qui est préventive à différents niveaux fonctionnels, cliniques, qui restaure la vie sociale des usagers, limite les comorbidités, les décompensations fortuites, les réhospitalisations, la durée de moyenne d'hospitalisation et évidemment la charge pour la société, puisque les pathologies chroniques, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques, coûtent très cher à la société, en particulier quand on parle de compensation du handicap. On pourrait retransférer ces charges sur la prévention, par exemple. Merci. Alors, tout ça, c'est pour obtenir des résultats probants qu'on pourrait résumer simplement sur stabilité psychosociale, performance cognitive, qualité de vie, qui est un indicateur composite essentiel. On n'est pas obligé de faire des mesures très compliquées. Il suffit de demander aux gens, avec des questionnaires simples de qualité de vie, est-ce que ça va mieux pour évaluer notre action. Merci. Et donc, c'est une équipe, en fait, pour faire du case management qui est sur le terrain. Vous ne pouvez pas faire de case management tout seul dans votre service, bien que je sache que c'est le plus souvent le cas. Donc, sur une équipe de terrain, comme au football, là, ils sont 11 au football, vous verrez qu'il y a des équipes où on est plus nombreux. Chacun a un métier différent. Goal est un métier, ailier est un métier, avant-centre est un métier. Donc, vous avez compris que vous pouvez transposer avec tous les métiers du médical et du médico-social. Et tout le monde joue sur le terrain avec un but ultime qui est l'amélioration rapide des compétences et éviter la chronicisation de l'usager en l'occurrence. Et donc, l'image, qui est une image qui est parfaitement fonctionnelle, c'est passer la balle à tout moment et qu'il n'y ait pas une seule personne qui s'occupe de la balle, ça n'existe pas sur le terrain. La balle circule, la balle c'est souvent tous les problèmes auxquels on est confronté quand on gère le dossier et la personne qui est concernée par le case management et qu'il faut être réactif, il faut savoir répondre facilement pour lever les obstacles. Une des définitions du case management, c'est lever les obstacles le plus rapidement possible pour avancer. Donc on avance vers le but et nous sommes les joueurs sur le terrain, qui est souvent un terrain qui n'est pas très plat, qui est plutôt accidenté. Et en face de nous, on a beaucoup d'adversaires, la maladie en particulier. Merci. Donc évidemment, le case manager facilite l'accès aux soins et améliore la prise en charge. Cette petite image provient d'un travail que nous faisons avec les Hauts-de-France où on a implanté 45 case managers, un par CMP et autant de méta case managers qui sont leurs collaborateurs, on va dire. Donc vous reverrez tranquillement cette diapositive qui explique et qui résume dans le dispositif qui s'appelle PEP48. PEP48 est un dispositif d'intervention précoce pour premier épisode psychotique. 48, c'est 48 heures, ça veut dire. Et donc, on doit constituer l'équipe qui va entourer le patient dès l'apparition du premier épisode psychotique, dès le premier passage aux urgences. Peut-être qu'on fera mieux dans quelques années et on pourra éviter l'apparition des épisodes psychotiques si le case management aide à avancer dans la prévention. Suivante. Merci. Alors, les case managers, c'est une fonction clé, bien sûr. D'abord parce que ce ne sont pas des référents, comme j'ai dit, vous n'êtes pas le seul. Le référent, s'il est malade, ben, il n'y a plus de référent. Le référent, s'il est en vacances, il n'y a plus de référent. Dans l'équipe de case manager, tout le monde connaît le patient et tout le monde est en mesure de répondre à l'appel téléphonique ou aux besoins de l'usager, puisque chacun est sur le terrain en permanence. Bien, plus que des organisateurs de soins ou des intervenants pivots, ce sont des agents de liaison, de coordination et de réadaptation psychosociale qui sont capables d'évaluer des situations complexes en facilitant l'accès aux ressources du territoire. Ce sont des accompagnateurs de parcours capables d'endosser les rôles de cliniciens, d'agents de réhabilitation, de conseillers, de porte-parole et d'alliés de confiance dont le rôle n'est pas de tout faire, mais de faire de sorte que tout soit fait. Leurs actions se concrétisent par une présence physique dans le milieu de vie de l'usager, écologique donc, en relation continue avec son entourage. Ils évaluent en continu l'état mental et social du patient. Ils s'assurent que le patient et ses proches soient correctement informés sur la nature de la maladie et sur les traitements proposés. Ils contribuent à diminuer la durée de psychose active en incluant l'utilisation optimale des traitements. Ils cherchent activement à prévenir et à réduire les comorbidités pour éviter les réhospitalisations. Ils contribuent à diminuer l'impact négatif de la maladie sur l'environnement de l'usager et de sa famille. Ils favorisent le rétablissement, la réintégration dans la société et la restauration d'une trajectoire développementale la plus normale. Et cette approche, bien sûr, priorise la réintégration rapide de l'usager dans la vie courante. Merci. Alors, ces case managers, ils ont été formés dans différentes écoles, comme disait mon collègue. Ils peuvent être psychologues, neuropsychologues, aides-soignants, infirmiers, éducateurs spécialisés, conseillers en insertion, chargés d'insertion professionnelle, etc. Mais en fait, en plus de leur métier, ils ont cette fonction de case manager, ils ont été formés pour ça, et donc ils doivent avoir ces fameuses habileté particulière, on appelle soft skills en anglais, qui correspondent à leur entraînement et à leur formation de case manager, tous. Ils doivent avoir des connaissances techniques spécifiques du groupe cible, en l'occurrence pour nous, les jeunes avec premier épisode psychotique. Ils doivent avoir connaissance des référentiels de bonne pratique sur les premiers épisodes, sur la schizophrénie par exemple, ou en matière de drogue, de comorbidité, de réduction des risques et des dommages. Des connaissances sur les techniques d'entretien avec le patient, peut-être techniques d'entretien motivationnel ou de médiation avec la famille, voire même avec les autres partenaires. Connaissances sur l'évaluation des pratiques et la supervision. Des connaissances sur la recherche d'emploi, l'orientation des carrières et l'individual placement and support, le retour rapide aidé à l'emploi. La capacité d'organiser des réunions de concertation pluridisciplinaire qui permet de regrouper à un moment l'usager et tous ceux qui travaillent autour de lui dans des réunions qu'on peut faire par Zoom, mais qu'on peut faire aussi physiquement maintenant. Avoir des connaissances juridiques sur l'égalité et l'accès aux droits, des connaissances sur la protection des données personnelles, de plus en plus, malheureusement, avec les risques que prennent les usagers sur Internet, des connaissances de l'administration publique, on l'a dit, qui est un peu complexe parfois, des connaissances linguistiques particulières, puisqu'il peut y avoir des jeunes gens qui ne parlent pas notre langue, et puis des connaissances informatiques, parce qu'on ne peut pas organiser tout ça si on n'a pas un système d'information qui soit efficace. Merci. Alors, un exemple pour l'intervention précoce dans le premier épisode psychotique. Allez-y. Hop. Eh bien, je vais vous parler du SAMHSA Prépsy que je dirige. Donc, c'est un service de case management, et donc tout le service est un service de case management. Nous sommes tous des case managers dans ce service. C'est un service qui n'est pas sectorisé, qui concerne des jeunes qui ont 16 à 25 ans, atteints d'un premier épisode psychotique, qui provoque un dysfonctionnement général dans leur habileté personnelle, familiale, relationnelle, scolaire ou professionnelle. On s'occupe des cas complexes, on ne s'occupe pas, heureusement pour eux, des jeunes gens qui ont des formes légères. Donc ce programme est basé sur le management par la qualité, donc on a une roue de la qualité que j'ai simplifiée là. La question d'abord c'est de collecter toutes les informations que vont nous donner les partenaires qui ont déjà vu le jeune homme, voire même la famille, la jeune femme et ses parents. On va évaluer la situation, on a des méthodes d'évaluation qui sont qu'on appelle nous le bilan neurofonctionnel, je vais en parler tout à l'heure, qui est fait par le psychiatre, le neuropsychologue et l'ergonome du service, qui vont nous permettre de faire le fameux programme d'accompagnement personnalisé pour déterminer les objectifs de l'accompagnement. Dès l'entrée, on prévoit la sortie, bien sûr, puisqu'il n'est pas question de chroniciser les patients. Et on va planifier les soins et impliquer les parties prenantes. Dans la planification des soins, on va déployer l'action des case managers du service. Le cadre de coordination, le méta case manager, comme vous voulez, va coordonner, améliorer la prise en charge, vérifier la satisfaction, il y a une optimisation des coûts, j'en parlerai tout à l'heure, et collecter les informations, et ça va tourner comme ça. Notre proximité permanente, elle est basée maintenant sur l'utilisation de, très simplifiée, puisque tout le monde a accès à ça, de l'informatique, des téléphones portables, de la visio, qu'on fait régulièrement avec nos jeunes. Suivante. Alors, je vous montre rapidement la composition de l'équipe. Malheureusement, je n'ai pas les photos de tout le monde, mais si je commence à midi et je fais le tour comme ça, nous avons un ergonome. Alors, c'est un ergonome spécialisé en santé mentale. Vous savez qu'il y a des ergonomes qui s'occupent du handicap physique, en particulier, par exemple, pour les gens qui ont des problèmes de mobilité. Eh bien, les particularités de la schizophrénie, c'est l'équivalent d'un handicap mental, on va dire, psychique, qui fait que, au lieu que ce soit les mouvements physiques qui sont gênés, ce sont les mouvements mentaux qui sont gênés, et donc on va mesurer l'impact de la maladie sur l'environnement, et on va faire des propositions d'aménagement de l'environnement à la fois au domicile et à l'extérieur, pour que les jeunes gens ne soient pas gênés par leurs troubles cognitifs. On utilise pour ça beaucoup l'informatique, en particulier les téléphones portables qui ont des applications particulières, des montres connectées, les balances connectées aussi, j'en parlerai tout à l'heure. les deux personnes côte à côte, là, ce sont nos deux pères aidants, et en particulier celui de gauche qui est un père aidant numérique, je vais en parler tout à l'heure, deux aides-soignants, une responsable qualité de vie habitat, un diététicien qui a un rôle majeur chez nous parce que le risque des troubles schizophréniques, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est lui qui réduit l'espérance de vie des patients atteints de schizophrénie de 12 à 15 ans, avec des risques cardiovasculaires extrêmement importants, prise de poids, sédentarité, influence des médicaments, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire. On a deux éducateurs sportifs, on n'en voit qu'un aujourd'hui, parce que le problème aussi, c'est de répondre à l'isolement des patients qui souvent ne veulent pas voir de médecin et qui acceptent volontiers de sortir avec quelqu'un qu'ils considèrent comme non médical. Et en plus, il est chez nous Chief Happiness Officer. Vous avez vu son sourire et il est très très utile parce qu'il donne une ambiance très sympathique chez nous. On a une psychiatre, moi-même, et un médecin généraliste avec nous, un chargé d'insertion professionnelle qui utilise la technique de retour rapide aidé à l'emploi, une neuropsychologue, une psychologue, une CISF, une éducatrice spécialisée, une assistante de coordination, une cadre de coordination, mes deux assistants, et j'ai oublié quelqu'un, et les infirmiers, pardon. Et puis on a la chance d'être entouré d'animaux, on a notre petite mascotte Guapa et nos poissons rouges. La suivante. Le père aidant numérique, c'est extrêmement important pour nous parce que le bureau n'est pas ouvert 24/7 et en fait, on peut nous joindre très facilement sur Internet et je vous encourage à suivre nos pages Facebook, LinkedIn, Twitter, etc., Instagram, où on passe beaucoup d'informations qui concernent les maladies psychiques. En toute modestie, c'est extrêmement suivi, pas que par des malades, c'est aussi suivi par des professionnels. Je crois qu'on a dépassé les 1500 abonnés la semaine dernière. La suivante. Alors, on a mis en place notre programme qui s'appelle Focus, que je vais dérouler rapidement. C'est ce que vous pouvez trouver si vous allez sur le site internet de Prepsy. C'est donc un programme pour vivre au-delà des symptômes, en quatre étapes. Première étape, mieux comprendre la situation. Notre équipe vous accueillera et vous expliquera notre démarche. Elle est à votre disposition et à celle de vos proches pour répondre à toutes vos questions. Ça, ce sont les premiers jours, semaines de la prise en charge. il faut que je dise un truc important. Nous n'avons pas de délai d'accueil. Donc les patients sont reçus chez nous dans les jours qui suivent l'appel téléphonique, le plus souvent. Les choses ont changé. Jusqu'à il y a 2 ans à peu près, c'était les services hospitaliers qui nous adressaient les patients avec, on va dire, l'essor de l'informatique et de l'Internet en particulier. Nous sommes beaucoup plus visibles et ce sont maintenant directement les familles, voire les patients qui nous téléphonent. Nous n'attendons pas d'avoir la notification MDPH pour prendre les patients dans le service puisqu'il s'agit d'un accompagnement en urgence, puisque c'est un premier épisode psychotique. C'est une urgence cérébrale. Donc, il faut les aider rapidement. Les choses seront régularisées au fur et à mesure. L'étape 2, c'est être accompagné. Une fois qu'on a fait l'évaluation, nous vous aiderons à construire votre feuille de route personnalisée dans le programme Focus. L'objectif est de vous accompagner de manière intensive pour retrouver rapidement une vie la plus autonome et épanouissante possible. L'adjectif intensif est important puisqu'on fait ce qu'on appelle le case management intensif ou d'intensité variable. L'accompagnement des patients est très intensif. L'étape 3, c'est se stabiliser. Avec l'équipe de case manager du programme Focus, vous allez construire, renforcer et stabiliser le réseau de spécialistes qui interviennent au quotidien autour de vous pour votre meilleur équilibre médical et social. Donc, vous avez compris qu'un des efforts que nous faisons, c'est de construire le filet de sécurité autour des jeunes pour qu'ils aient tous le bon psychiatre, le bon médecin généraliste, les bons psychologues, les bons psychothérapeutes, les bons contacts sociaux et qu'une fois que tout ça est stabilisé, on pourra progressivement les sortir du service Prepsy et les accompagner dans l'environnement naturel. Et puis, quatrième et dernière étape, avancer, c'est-à-dire quitter le service. La réalisation des projets de vie personnelle et professionnelle qui sont importants pour vous font partie intégrante de la reprise de votre autonomie. C'est pourquoi, avec le soutien de notre équipe, vous pourrez, nous y croyons, reprendre votre vie sociale, retrouver rapidement un emploi ou rechercher un logement. La durée moyenne de séjour, si j'ose dire, d'un usager dans notre service est entre 24 et 36 mois, c'est un maximum, parce qu'on ne peut pas prétendre faire une intervention précoce et la laisser durer et rentrer dans la chronicité. Merci. On a aussi ajouté à notre service le Prepsy Lab, qui est un appartement d'évaluation neurofonctionnelle écologique et d'entraînement, qui est l'évolution d'un petit appartement que nous avions avant. Là, vous voyez très peu de choses, mais j'ai mis juste deux photos. Un îlot central qui nous permet aujourd'hui de faire des évaluations neurofonctionnelles écologiques. Vous avez compris qu'on peut tester toutes les capacités d'un jeune autour de cette capacité à faire cuire un œuf ou à inviter quelqu'un, faire un café, laver ses vêtements, comme s'il vivait dans l'appartement dans lequel il veut bientôt vivre. Et nous avons un genre d'appartement témoin, dont vous voyez qu'une partie ici, qui nous permet de tester grandeur nature, la capacité d'un jeune à pouvoir se servir de tous les outils, on va dire, de toute la fonctionnalité d'un appartement. Nous avons un deuxième appartement à côté, qui est juste jumeau à côté, mais qui est complètement équipé, qui permet à un jeune de passer une nuit, deux nuits, trois nuits, toute la journée dans cet appartement, et ça nous permet d'évaluer sa capacité à l'autonomie avant d'être lâché seul dans un futur appartement. Si on ne fait pas ça, très souvent, on se trouve face à des situations d'anxiété majeure. Alors, un autre exemple, c'est la question du double diagnostic. Merci. Nous avons déployé un programme qui s'appelle Prepsy Contact sur les pathologies duelles et le case management. C'est un programme d'appui national, alors que là, Prepsy était un programme départemental qui est soutenu par le Fonds de lutte contre les addictions. Vous irez sur le site de Prepsy Contact et vous verrez la petite vidéo qui est instructive pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire que le bridging, la création de ponts par le case management entre les différents partenaires. On va voir une diapositive moins sympathique, c'est la suivante, mais qui explique à peu près la même chose. Donc l'idée, c'est de répondre aux besoins des usagers. Les usagers qui sont premier épisode psychotique, souvent sont des consommateurs de toxiques, mais ils sont surtout des fumeurs, c'est le premier problème, 80 000 morts par an dus au tabac, 40 000 dus à l'alcool, et ils sont aussi consommateurs de toxiques, cannabis, cocaïne, etc. L'idée, c'est que quand ils sont suivis au CMP, ils ne sont pas suivis à la consultation jeunes consommateurs et réciproquement. Ils ne sont pas non plus en collaboration avec les médecins généralistes des CPTS. Et donc, nous avons mis un programme en place pour faire collaborer région par région les différents acteurs, les familles, les patients, les 238 CPTS, les 1800 CMP et les 400 consultations jeunes consommateurs. La suivante. Encore un clic. Encore. Alors, en fait, comme ça, on va faire apparaître les 6 petites diapos. Donc, voilà, ces acteurs de différentes filières et de différentes sphères ne sont pas en relation parce qu'il y a un manque d'interconnaissance et d'interconnexion entre les acteurs d'un même territoire, ne serait-ce que géographiquement. La CJC n'est pas à côté de la CMP, du CMP n'en fait pas partie. Il y a des manques d'espace de partage et d'échange entre les acteurs, avec des difficultés d'articulation en raison de temporalité propre à chaque secteur. C'est très difficile de mettre en place des réunions, par exemple, tout le monde travaille de son côté, des temps de coordination qui sont souvent perçus comme chronophages, mais qui sont au détriment du patient, bien sûr, et des freins à la coordination, des outils qui ne sont pas partagés, des contraintes organisationnelles, institutionnelles, voire même culturelles ou théoriques. La suivante. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup les réseaux sociaux, celle-là elle a marché, c'est pas mal, que vous pourrez voir sur notre site Prepsy Contact. La suivante. Alors, l'idée, en fait, c'est de faciliter la trajectoire et le parcours des usagers, hein, vous l'avez compris, usagers qui est dans un parcours où il est en silo. Il est un peu propriétaire du CMP ou propriétaire de la CPT, de la CJC. On a voulu et on a tenu à mettre dans la boucle les CPTS et les médecins généralistes en particulier, mais on a pensé aussi qu'il fallait étendre ce programme au PTSM. Et pourquoi l'étendre ? Parce que vous-même, vous travaillez sur ce genre de fiches actions et qu'on peut travailler avec vous sur le projet territorial, à l'échelon communal aussi ou intercommunal, pour décliner des programmes d'intervention précoce pour tous les acteurs locaux, qu'ils soient sanitaires, médico-sociaux ou associatifs par exemple, qui vont constituer le PTSM, hein, par l'intermédiaire des coordinateurs, on vous a entendu madame tout à l'heure, améliorer l'interconnaissance entre les secteurs de la psychiatrie, de la santé mentale et de l'addictologie, alimenter le réseau d'acteurs du PTSM avec d'autres acteurs du champ des addictions, tout ça c'est pour fluidifier le parcours de soins des usagers qui ont un double diagnostic. On peut vous proposer des outils d'accompagnement en organisant des webinaires de présentation à l'ensemble des coordonnateurs. Nous avons fait en janvier une réunion ici au Vinatier qui a réuni, c'était sous couvert de Covid, à la fois 70 professionnels dans l'amphi, mais 380 personnes en Zoom, pour parler justement du double diagnostic, et on est en train de dupliquer ça dans toutes les régions de France. On peut porter une fiche action addiction et santé mentale avec les acteurs locaux concernés, présenter nos outils qui existent à tous les membres du groupe de travail, adapter ces outils en fonction des nouveaux besoins qui sont relevés par le groupe, et puis organiser des rencontres, et ça c'est fondamental, c'est ça le case management aussi, c'est mettre en relation, connaître, identifier, mettre en relation tous les partenaires pour faciliter la mise en œuvre de, comment dire, la prise en charge de ces jeunes. Je pense que j'ai atteint... Ah oui, alors, en fait, la question, c'est comment implanter un programme de case management. On est confronté à des freins et des leviers. Tout d'abord, comparé aux soins habituels, standards, les programmes de case management sont des gisements de valeur. L'intervention précoce protège théoriquement les patients d'un risque majeur, c'est le risque de suicide, donc il faut l'éviter. C'est aussi un gisement de valeur parce que le patient reprend rapidement son activité sociale. Ils sont moins coûteux que la prise en charge habituelle, sauf si la durée des programmes de case management est ou trop courte ou trop longue. Ils sont plus efficaces par rapport aux symptômes négatifs de la schizophrénie, parce que justement, les équipes qui soutiennent les patients les mobilisent, mais pas seulement d'un point de vue occupationnel, mais aussi les mobilisent pour aller vers le soin et être accompagnés pour la remédiation cognitive, pour la réhabilitation psychosociale, pour les soins somatiques, pour la réduction des risques, etc. Ils facilitent le retour rapide à la vie sociale, réduisent le recours aux hospitalisations, conduisent à une plus grande réduction d'abus de substances, améliorent la satisfaction des usagers et des familles, mais ces bénéfices ne se maintiennent que si on continue à faire rentrer les patients dans des soins type case management suivi d'intensité variable et non pas retour au CMP habituel. Mais ça, ce ne sont pas des études françaises, ce sont des études américaines. La suivante. Alors, vous n'y arriverez pas tout seul, ça c'est le problème. Il faut que vous soyez entouré pour mettre en place votre projet parce que vous allez rencontrer des difficultés. Les difficultés, c'est identifier clairement les besoins des usagers et des parties prenantes sur le territoire, connaître les ressources du territoire, et toutes les ressources ne sont peut-être pas présentes pour l'accompagnement de cette particularité médicale. Négocier avec les tutelles le financement de votre projet, favoriser un leadership collectif avec une vision partagée et une gouvernance forte, ce qui n'est pas toujours le cas. Mon collègue en parlait tout à l'heure, on est confronté au problème qu'on appelle la coopétition, collaboration-compétition. On pourrait appeler, traduire ça tout simplement jalousie institutionnelle qui va bloquer et provoquer des résistances au changement. Et puis, il faut former et protocoliser les modalités d'intervention et les équipes, en particulier ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine par la preuve. Et nous avons aujourd'hui, à l'international, des arguments pour les bonnes pratiques cliniques qui sont traduites en français. Il faut aussi gérer la pénurie, les mouvements de personnel, l'augmentation des coûts salariaux, évaluer les pratiques, la performance et l'impact médico-économique et être en mesure de communiquer à la fois dans votre service, en externe aussi, avec des systèmes d'information qui nous permettent de tester ensuite statistiquement les données que nous avons produites. Et puis, il faut faire attention aux écarts, parce que aussi bons soient les programmes, ils sont souvent victimes d'écarts avec les modèles s'il n'y a pas d'instance qui vérifie leur conformité. Si on ne fait rien, progressivement, votre service va retourner vers un service, j'allais dire, plutôt standard et qui va perdre la capacité ou l'efficacité du case management. La simple diffusion de guides de pratique est insuffisante. Il faut les travailler justement avec les intervisions et les supervisions et il faut maintenir l'équipe entraînée. Tout le monde admet que l'équipe de football s'entraîne en permanence avant de jouer le match. Les équipes de case manager s'entraînent en permanence. Les programmes sont hétérogènes et n'adhèrent pas complètement aux recommandations des experts. Donc, il faut aussi être en mesure de trouver le programme qui correspondra le mieux à votre cible. Et puis, les interventions psychosociales demeurent complexes, donc on risque de s'écarter pour telle ou telle raison de ce qu'on est en train de faire, avec le risque d'entraîner une forte perte de rentabilité, toujours au détriment des usagers. Alors, la satisfaction des usagers, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dans une précédente diapositive, vous avez vu des pastilles de couleurs, c'est l'élément majeur, parce que tout ça, on ne le fait que pour l'amélioration de la qualité des soins et la satisfaction des usagers. Donc, il faut orienter le service vers la qualité et vers la satisfaction des usagers. C'est une technique qui est porteuse de sens, qui permet de gagner en clarté, donc en efficacité, qui permet de tenir un discours unique tous ensemble, qui est valorisante pour les équipes et qui diminue théoriquement les résistances au changement, puisque le but, l'objectif, c'est le patient, c'est pas l'institutionnalisation. Pardon. Et puis, nous avons des travaux de recherche, le manuel de case management en psychiatrie, qui est paru en octobre, là. Les fameux symposiums management et psychiatrie que nous organisons chaque année, le prochain aura lieu en janvier. Le traité de réhabilitation psychosociale, que vous avez probablement en main, dirigé par le professeur Nicolas Franck, dans lequel nous avons fait un article aussi. Et puis des choses concernant la perte de sens ou le sens, ou des articles dans la formation psychiatrique ou santé mentale, où nous avons un article sur notre appartement d'évaluation. Je terminerai sur l'ingénierie et la formation, puisque la question c'est comment est-ce qu'on se forme. On peut se former avec notre association de formation AFPCMS ou avec le Centre national de l'expertise hospitalière aussi, qui propose des formations sur tout le territoire, DOM-TOM comprise. Voilà, bah, écoutez, merci pour votre attention.